Chapitre 27. Moulin de Noirat, Amber, France. Noël Archer avança dans la cave voûtée. Cécile et Arsène suivirent pendant que Zach fermait la marche. La pièce semblait conçue pour que tous les sens des visiteurs éprouvent une répulsion immédiate. Odeur de décomposition, chaleur oppressante de la pièce soufflée par des tuyaux d'aluminium, lumière blafarde diffusée par des néons agressifs, et vision cauchemardesque des longs vivariums alignés devant eux. Dans le premier, une dizaine d'énormes araignées jaunes et noires se serraient contre la vitre en une monstrueuse grappe grouillante.
« Mes hétéropoda !» expliqua Noël avec entrain. « On ne les trouve plus que dans de rares régions de Malaisie. Les pauvres se font exterminer dans l'indifférence générale. C'est certain que sur un t-shirt WWF, elles font moins sympa qu'un panda, non ? Vous savez quoi ? Pour leur donner une chance de survivre, les scientifiques ont rebaptisé l'hétéropoda « araignée David Bowie ». Cool les mecs, non ? La valeur marchande de mes araignées a pris 300% depuis qu'elles sont devenues des rockstars. »
Cécile se sentait envahie d'une irrépressible chair de poule.
« Et eux ?»
s'inquiéta Arsène en désignant timidement le vivarium suivant. Des serpents gris et blancs paraissaient dans leur bocal rectangulaire.
Des crotales de l'Ontario, les seuls serpents venimeux canadiens. Les malheureux ont beau figurer parmi les plus dangereux serpents au monde, ils ne font pas le poids face aux chasseurs canadiens qui continuent de les massacrer malgré les interdictions formelles. Ils sont reconnus aujourd'hui comme quasi disparus. Alors j'investis. J'en ai une dizaine ici, pour le fun. Mais j'entretiens un vivarium à Chicoutimi avec le plus gros de mon élevage. Un jour ou l'autre, le gouvernement canadien m'offrira une fortune pour remettre tous ces charmants serpents à sonnette en liberté. »
Devant les reptiles visqueux enroulés les uns sur les autres, Cécile retint une furieuse envie de gratter jusqu'au sang sa peau hérissée, ou de s'enfuir en courant, de vomir ses tripes. Cette fois, Noël Archer s'en aperçut.
« Allez, sortons. Rassurez-vous, mademoiselle, je n'héberge pas que des monstres. J'ai aussi dans mon portefeuille de gentilles bébêtes. » Sur l'île de Bali, je conserve dans un lagon fermé 17 dauphins de l'Irrawaddy. Il en restait officiellement moins de 70 au monde en 2008, et 8 sont morts dans des filets de pêche en 2009.
Noël baissa la tête et sortit à nouveau dans la cour du moulin.
Pour chaque dauphin de l'Irrawaddy qui meurt,
continua-t-il,
chacun des miens, dans mon sanctuaire de Bali, gagne au minimum 30% de sa valeur. J'ai cédé il y a 3 mois. J'en ai revendu un couple au parc zoologique d'Orlando, en Floride. 150 000 $ chacun.
Cécile souffla en retrouvant l'air extérieur. Elle n'arrivait pas à déterminer si ce type devant elle, à l'allure d'adolescent attardé fan de jeux vidéo, se complaisait dans un pur délire ou s'il était véritablement un multimilliardaire persuadé de sauver le patrimoine de l'humanité. Arsène ne semblait pas se poser la question et buvait avec fascination les explications de Noël Archer.
Je ne vais pas vous faire la liste de mon stock d'actions, ce serait un peu long, mais pour vous donner une idée, sur les 60 derniers rhinocéros de Java recensés sur la planète, je subventionne la survie de 8 d'entre eux dans un parc animalier à Kalimantan. J'ai aussi un faible pour mes 3 gorilles d'eau argentée du Congo, sans parler de mes 2 couples de tigres de Sibérie. Ça monte, le tigre de Sibérie avec le réchauffement. Pas autant que l'ours polaire, mais presque. »
Cette fois-ci, ce fut Zach qui coupa la parole à son ami.
« Vous voyez, Arsène et Cécile, Noé existe. Il est trader en Auvergne et ce moulin est son arche. »
Arsène sourit. Cécile ne s'en donna pas la peine. Elle scrutait les alentours du domaine dans l'espoir de trouver une issue. Un moyen quelconque de fuir ce repère de détraqué. Son regard s'arrêta sur les pales vermoulues de la roue à aube du moulin, entraînée par la force du courant du torrent de montagne qui traversait le domaine.
« La roue est d'origine ?» demanda Cécile.
« Non, » fit Noël, « j'ai tout rénové. Mais le bif remonte au XIIe siècle. »
« Et où descend le torrent ?»«
Tout droit jusqu'à Amber, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, à un peu plus de 5 km. » « Mais le torrent est grillagé. » ajouta Zach. Ne vous faites aucune illusion, Cécile. Seule l'eau de la montagne est autorisée à sortir. »
Cécile se pencha et jeta avec une rage contenue un caillou dans l'eau vive.
« Je vois.
Combien de temps espérez-vous nous retenir ici avant que la police ne nous localise ?
Le temps de déjeuner, au moins, intervint Noël Archer. Allons, à table.
Ils remontèrent la cour en pente douce vers l'escalier de pierre qui menait au moulin. Des herbes folles poussaient entre les blocs de granit. Noël Archer en cueillit une, la porta à sa bouche et se retourna vers la chercheuse.
Vous avez l'air de me prendre pour un fou, Cécile, mais vous êtes une scientifique. Vous devez bien savoir que je ne suis pas le seul à rejouer la scène de l'Arche de Noé. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de l'Arche végétale dans l'Arctique, en Norvège, dans l'archipel de Svalbard.
Vaguement.
Vaguement? Vous rendez-vous compte? Près de 300 000 échantillons de semences, de graines et de végétaux y sont conservés à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer, dans des caissons de béton capables de résister aux tremblements de terre ou aux explosions nucléaires. L'Arche de Noé du XXIe siècle ne flotte pas sur l'eau, mais repose sous les glaces à 1000 mètres du pôle Nord.
D'accord, monsieur Archer, intervint Arsène, mais d'après ce que je sais de ce projet, il s'agit là d'une opération financée à coups de milliards d'euros par les institutions internationales et supervisée par une armée de scientifiques.
Cécile saisit la balle au bond. Pas d'un illuminé qui conserve des bestioles de l'enfer dans son moulin, aidé par son copain serial killer. Allez jusqu'au bout, Noël. Qui vous a confié la mission de sauver la planète ? Dieu ? Des anges descendus du ciel ? Vous n'êtes qu'un intermédiaire entre eux et les hommes, un maillon de la chaîne qui prend sa marge au passage ? Il sera de combien le ticket d'entrée sur votre arche pour les quelques privilégiés et leurs animaux de compagnie ? Noël Archer cracha la tige d'herbe.
Charmante, Zach, ta copine. N'est pas ma copine.
Un grand sourire élargit son visage.
Mais à titre personnel, je ne sais pas pourquoi j'aime bien son petit côté psychorigide.
Cécile grimaça de rage.
Et il paraît qu'elle est hyper compétente dans son domaine, la glaciologie par télédétection. Pas vrai, Arsène ?
La meilleure, fit Parella presque joyeusement. Vous n'aviez pas dit à table ?
Devant l'attitude désinvolte de son professeur, Cécile crut devenir folle. Cécile, affligée, observait les graines bouillies dans son assiette. Si Arsène, Noël Archer et Zach dévoraient de bon cœur le plat bio réchauffé quelques minutes au micro-ondes, la chercheuse n'y avait pas touché. Des plantes péruviennes rares, d'après Archer, hautement nutritives. Cécile avait, à l'inverse, l'impression d'être enfermée dans une arche depuis 40 jours et d'entamer les dernières rations de survie. Derrière les convives, sur le mur opposé à la cheminée, une demi-douzaine d'écrans de télévision étaient alignés. Ils diffusaient tous en permanence les images filmées par les caméras de surveillance disposées dans le parc du moulin. Noël Archer, méfiant, levait régulièrement les yeux vers eux.
« Monsieur Archer, » demanda Arsène entre deux bouchées, « comment avez-vous connu notre dévoué garde du corps, Zach Ikabi ?»«
La passion. Une passion commune, vous vous en doutez. »«
L'Arche de Noé. »
Noël Archer cracha ses graines en s'étranglant de rire.
« L'Arche de Noé, vous plaisantez, professeur. Qui pourrait bien croire à cette fable ?»
La remarque étonna Cécile. Zach leva sa fourchette, prêt à débattre. Noël Archer enchaîna.
« Soyons sérieux, j'ai discuté des nuits entières de tout cela avec Zach, l'anomalie d'Arara et le reste. Je sais que vous avez pondu un rapport sur cette question pour l'ONU des curés, la fonte des glaces et tout le tintouin. Vous êtes des scientifiques. Vous pouvez donc expliquer à Zach que l'on peut trouver pas mal de choses à un sommet de plus de 5000 mètres, mais pas un bateau, n'est-ce pas, professeur ?»
Arsène Parella commençait à hocher la tête lorsque Zach sortit brusquement de sa poche un chiffon blanc qu'il déplia. Il contenait un éclat de bois d'une dizaine de centimètres. Cécile se figea en découvrant le morceau de bois. La preuve à charge. Ce ne pouvait être que le fragment d'arche de Fernand Navarra, celui exposé au musée d'Aquitaine, le vol qui avait coûté la vie à deux gardiens.
« Et ce fragment ?»
répliqua Zach.
« C'est un cure-dent ? Fais-la expertiser, Noël, tu verras. C'est du Quercus robur, du chêne vieux de 5000 ans, découvert dans les glaces de l'Arara. »
Le trader éclata à nouveau de rire.
Une poutre de l'Arche de Noé, tu parles. Navarra était un mythomane rusé qui a fait sa publicité sur ce coup bien monté.
Il n'y a qu'à lire son bouquin. Il pue la mise en scène à plein nez. La découverte avec son fils de 13 ans, la poutre passée à la barbe des soldats turcs, le retour sur l'Arara des années plus tard avec les tonnes de matériel et les kilomètres de films.
Zach soupira. Cécile s'amusait beaucoup et en profita même pour goûter une graine du bout de son couteau.
« Si ce n'est pas l'Arche, »
insista Arsène,
« quelle passion commune vous a réunis ?»
Noël hurla presque.
« le déluge universel. Attention, je ne vous parle pas de superstition cette fois, je vous parle de science, professeur. »
Cécile avala difficilement sa plante tiède au goût désespérément fade. Arsène Parella se cala sur sa chaise.
« Continuez, monsieur Archer, continuez. Ces histoires de déluge réveillent le vieux sédimentologue qui sommeille en moi. »
Cécile poussa son assiette devant elle avec dégoût et se leva. « Je peux au moins aller aux toilettes ?»«
Deuxième porte à droite, »
fit distraitement Noël Archer. « Il y a des caméras ?»«
Non, » répondit Zach, « mais pas de fenêtre non plus. »
Cécile haussa les épaules en s'éloignant. Lorsqu'elle passa la porte, Noël Archer entamait déjà un long monologue sur l'existence réelle d'un déluge planétaire dont la mémoire des hommes aurait conservé la trace. Zach, au moins, ne mentait pas sur ce point. Ni caméra, ni fenêtre dans les toilettes. Cécile monta sur la cuvette et se hissa sur la pointe des pieds. La seule issue se limitait à une bouche d'aération circulaire de 10 cm de diamètre, protégée par une grille de plastique blanc. Cécile pesta. Elle devait trouver une solution, n'importe laquelle. Agir. Prévenir la police au minimum, si elle ne pouvait pas s'enfuir. Il était impossible de compter sur cet irresponsable d'Arsène Parella, qui ne semblait pas comprendre la gravité de la situation. Cécile tendit l'oreille. Par la bouche d'aération, elle entendait distinctement le torrent dont le lit longeait le moulin, de l'autre côté du mur. Elle détailla longuement la pièce confinée, puis se décida. Son idée était complètement folle. La chercheuse sortit de sa poche une pièce et, toujours hissée sur la pointe des pieds, entreprit de dévisser le cache de plastique. Cela lui prit moins d'une minute. Lorsque la grille tomba, Cécile put jeter un œil. Comme prévu, le torrent passait juste au-dessous de l'ouverture. La chance lui souriait. Elle sauta par terre et attrapa le désodorisant posé sur la tablette. Une bouteille de plastique qu'elle dévissa et dont elle versa nerveusement le contenu dans la cuvette. Elle se demanda si tout son manège ne prenait pas trop de temps, si Zach ou Noël n'allaient pas venir cogner à la porte des toilettes. Dans ce cas, la parade serait toute trouvée. Prétendre que ces foutues graines bio n'étaient pas vraiment copines avec ses intestins. Le flacon était maintenant vide. Elle le posa sur le carrelage, puis sortit de sa poche son agenda auquel était en permanence accroché un petit stylo feutre. Elle arracha une page d'un geste sec, puis écrivit en gros caractères bâton « SOS, tueur musée d'Aquitaine ici, moulin de Noirat, prise en otage, prévenir police ». Elle relut rapidement, perplexe, puis observa la bouteille de plastique en grimaçant. Trop tard pour reculer. Elle tomba à genoux et attrapa le flacon. Ses ongles grattèrent avec une furie de harpie l'étiquette. Le papier s'effilochait. Cécile pinça les lèvres, puis plongea la bouteille dans la cuvette. Une fois, deux fois. Gratta à nouveau, essuya le tout avec du papier toilette. Au bout de quelques secondes, le flacon de désodorisant fut entièrement transparent. La chercheuse y glissa la feuille d'agenda, prenant conscience de l'infime chance de succès de son plan. Refermer la bouteille, la jeter dans le torrent et espérer qu'elle descende jusqu'à une maison, un hameau, Amber, la sous-préfecture, que quelqu'un se donne la peine de la ramasser. Plus elle y pensait, plus elle se rendait compte à quel point toute sa stratégie était ridicule. Quel passant pourrait se donner la peine de se pencher pour ramasser un détritus dans une rivière? Aucun. Cécile se mordit encore les lèvres. Tant pis. En un tournement, elle ôta sa montre et la fourra dans le flacon. Un crétin dont elle se rappelait à peine le prénom lui avait offerte il y a une éternité. Elle devait encore valoir un bon prix. Elle hésita, puis passa les mains derrière son cou. Elle décrocha son pendentif, un soleil en or, un cadeau de son père, le seul, le dernier. L'heure n'était pas au sentimentalisme. Le collier bascula par le goulot. La chercheuse referma le tout. Elle ne devait plus traîner maintenant, ne surtout pas chercher à évaluer rationnellement les chances de succès. Cécile remonta sur la cuvette. Elle s'assura de la distance du torrent, posa le flacon dans la bouche d'aération, puis, d'un mouvement sec, le poussa. Cécile suivit des yeux quelques instants sa bouteille à la rivière, bousculée de pierre en pierre par le courant. Une seconde de plus, et elle avait disparu. Le flacon continua sa course dans le Val de Laga. Parvenu au pont qui enjambait la départementale dans le hameau de Valère, à moins de 4 kilomètres d'Ambert, il s'accrocha un long moment contre la berge meuble, en équilibre instable. Finalement, hasard de l'onde ou du vent, il reprit son chemin et passa sous la voûte de pierre. Quelques minutes plus tard, une Opel Vivaro grise, après avoir longé le torrent sur 100 mètres, franchissait le pont de Valère. À son bord, 5 hommes armés s'étiraient, visiblement pressés de se dégourdir les jambes.